Pour la dignité, donc, avec Régis Coulanges, responsable formation à Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous.
Pour débuter cette émission, j'ai une pensée pour Narges Mohammadi. Vous savez, cette femme iranienne, avocate, prix Nobel de la paix, et qui, à nouveau, avait été emprisonnée. Elle a fait une crise cardiaque en prison, des évanouissements, on était très inquiets. L'Iran a tardé pour l'envoyer à l'hôpital. Et finalement, elle est maintenant à l'hôpital et son état est grave, mais stationnaire, d'après les dernières nouvelles que nous avons reçues de sa famille. Voilà. Donc on est très inquiets pour elle et la situation en Iran est dramatique. Et tous les jours, il y a des exécutions de ces jeunes qui ont manifesté. C'est quand même une horreur. Dans cette émission, on va parler du rapport annuel, des raisons quand même d'espérer malgré tout, puis de la guerre au Moyen-Orient, en Iran, au Liban. On parlera aussi de notre action au sujet des titres de séjour en France, une précarité qui est entretenue. Et puis, on reparlera un peu des actions sur Digne, du concours d'éloquence qu'il y a eu au niveau des lycées Pierre-Gilles de Gênes et Alexandra Davinel. On écoutera un discours d'une des jeunes sur les droits des femmes. Et puis, on vous parlera de l'action du groupe Dinois et notamment d'un conteur qui va venir, Pepito Matteo, le mercredi 6 mai à 19h à l'Ermitage, invité par RESF avec Amnesty et l'association de soutien aux jeunes isolés étrangers. Voilà. Alors, pour commencer, on va parler du rapport annuel. Ça fait 65 ans que chaque année, on publie un rapport sur la situation des droits humains dans le monde. En 2025, nos équipes ont enquêté sur le terrain, recoupé des témoignages et informations sur 144 pays, dont la France, et ce, en toute indépendance et impartialité. Notre état des lieux doit nous alerter collectivement. La loi du plus fort pourrait prendre le pas sur l'état de droit. Face à la montée des pratiques autoritaires dans le monde, aucun pays n'est à l'abri de basculer. Mais la résistance se lève, elle doit nous porter. Le rapport annuel d'Amnesty, c'est 500 pages d'alerte, d'enquête, de dénonciation. Un signal d'alarme pour rappeler aux États qu'ils sont responsables de la situation des droits humains dans leur pays. Nous avons réuni dans ce dossier trois articles pour vous donner toutes les clés de compréhension d'un rapport de référence. Car nous sommes à un tournant. Aujourd'hui, les droits humains sont attaqués frontalement. L'humanité est en danger. Mais la résignation n'est pas une option. Le droit international n'est pas une illusion. Cette année, notre rapport est un appel à résister à la loi du plus fort. L'année 2025 restera celle des prédateurs, Trump, Poutine, Netanyahou et d'autres. Des dirigeants qui proposent un ordre mondial raciste, patriarcal, inégalitaire et qui sont prêts à écraser toute dissidence. Leur méthode pour imposer une nouvelle ère, peur, instabilité, violence. Avec eux, les pratiques autoritaires s'étendent, l'impunité progresse, la justice et les libertés reculent. Et ce sont les populations qui en paient le prix. De Gaza, où un génocide est toujours en cours, à l'Ukraine, où des populations civiles sont bombardées, du Moyen-Orient qui s'embrase, à l'Iran, à l'Afghanistan, au Myanmar, au Soudan, ou encore à l'agression des États-Unis au Venezuela, les États jouent avec un feu qui menace de tout brûler. Les prédateurs cherchent à détruire ce qui a été construit depuis 80 ans en s'attaquant au droit international. Notre rapport annuel leur fait face en leur rappelant que non, le droit international n'est pas mort. Il est bien vivant, puissant, et il est notre dernier rempart face au chaos. Trump aux États-Unis, Milei en Argentine, Meloni en Italie, les pratiques autoritaires ne sont pas qu'une menace, elles sont bien réelles. Il serait faux de penser que ce basculement vers des pratiques autoritaires ne nous concerne pas ici en France. Au contraire. Face à la montée des pratiques autoritaires dans le monde, les discours contre les droits humains se banalisent en France et ouvrent la voie à des politiques qui s'en inspirent ouvertement. Nos équipes ont déjà documenté des signes avant-coureurs de pratiques autoritaires en France. Parmi ces signes, banalisation des discours racistes, banalisation des attaques contre l'état de droit, répression de la société civile. À un an de l'élection présidentielle, ces signaux doivent particulièrement nous alerter et les identifier. C'est déjà une façon d'y résister. On va écouter maintenant Zaz, Mon sourire, extrait de son dernier album.
C'est pas parce que je chante avec l'amour aux lèvres. C'est pas parce que je tente de caresser mes rêves que je passe à côté des misères de ce monde. Comme toi, je sais bien que la roue est cruelle. Comme toi, à la fin, je m'y brûlerai les ailes. Qui cherche la lumière doit embrasser les ombres. Et tant pis si je tombe. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. C'est ainsi que j'espère. Bien sûr que j'ai les larmes face à tant de détresse. Bien sûr mon cœur s'emballe au cri des SOS. Mais ce soleil en moi ne s'essoufflera pas. Oh non, non. Je préfère me blottir contre ceux qui n'ont rien. Nous aider à bâtir de meilleurs lendemains. C'est ainsi que je suis et ça en vaut la joie. Et ça en vaut la joie. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos mille misères. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Et tant pis si j'y perds. C'est pas parce que je ris que j'en oublie nos peines. Pas parce que je souris lorsque je monte en scène que je reste insensible aux laideurs de ce monde. J'aime me dire que la vie est un cadeau du ciel. Et je danse sous la pluie comme une enfant rebelle. Et je chante l'embellie lorsque le tonnerre gronde. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à faire l'amour en temps de guerre. C'est ainsi que j'espère.
Voilà, très belle chanson de Zaz. Alors, les raisons d'espérer, malgré tout, ben, elles nous viennent de la Gen Z en résistance. Alors, c'est ce qu'on appelle la Gen Z, c'est la génération des 17-30 ans. Voilà, dans un monde sur le point de basculer, on peut compter sur cette jeunesse. Elle est déjà en résistance. En 2025, la jeunesse a été le porte-drapeau de cette lutte pour nos droits en organisant des manifestations puissantes de résistance et de solidarité. Elle est descendue en force dans les rues, au Népal, au Bangladesh, au Maroc, à Madagascar. Elle s'est opposée à la censure, aux inégalités. Elle a réclamé plus de justice. Et des avancées concrètes ont été obtenues. Oui, les mobilisations perturbent le cours des choses. Pour montrer ce formidable élan, Amnesty International a créé une carte interactive pour exposer la pluralité et la force des combats de cette génération qui se bat pour ses droits. Leur courage est une inspiration, nous prouvant que la société civile est un contre-pouvoir puissant, et c'est parce qu'il est puissant qu'il est redouté. Donc si vous voulez voir cette carte, allez sur le site amnesty.fr et vous trouverez cette carte du monde avec les différentes actions des jeunes. Tous les crimes que nous documentons, toutes les voix que nous portons, année après année dans nos rapports annuels, racontent une réalité. Ce que signifie vivre sous un pouvoir autoritaire et le courage immense qu'il faut pour reconquérir sa liberté. Alors aujourd'hui, nous avons à faire un choix simple mais courageux, celui de défendre les droits humains, défendre le droit international et dire non à la loi du plus fort. La résistance est un long chemin, mais ensemble nous pouvons nous lever. Ensemble nous avons le pouvoir de résister, l'humanité doit toujours triompher. On ne peut pas faire reposer cette résistance uniquement sur la société civile. Nos dirigeants ont une responsabilité. Gouverner, c'est choisir. La justice, pas la piétiner. Gouverner, c'est protéger, pas écraser. Gouverner, c'est agir, pas se taire. C'est cela que nous attendons de nos dirigeants. Alors, un exemple, à Madagascar, le 25 septembre 2025, Nouvelle coupure d'eau et d'électricité, cette fois c'en est trop, à l'appel des jeunes, des milliers de personnes s'emparent des rues de la capitale. Rapidement, les manifestations gagnent l'ensemble du pays. Au-delà des dysfonctionnements des services de première nécessité, c'est un ras-le-bol général qui s'exprime. Corruption, pauvreté, inégalité latente, les jeunes n'en peuvent plus de voir leurs conditions de vie s'amenuiser et leur voix silencée. Mais au lieu d'entendre leur colère, les autorités répondent par la violence. En quelques jours, des centaines de manifestants sont blessés. Au moins 22 personnes y laisseront leur vie. Malgré la répression, les mobilisations ne désemplissent pas. Le 11 octobre 2025, le gouvernement est finalement renversé. L'armée prendra le contrôle du pays quelques jours plus tard. Elle promet la mise en œuvre d'une transition et de nouvelles élections dans un délai de 2 ans. Mais plusieurs mois après, les revendications de la Gen Z sont restées lettre morte et la répression reprend de plus belle avec de nouvelles arrestations en avril 2026. Parmi les revendications principales, la lutte contre la corruption. La jeunesse dénonce haut et fort l'enrichissement d'une poignée de politiciens corrompus et d'hommes d'affaires. L'accès à l'eau et l'électricité, tout comme la santé, l'enseignement et l'emploi, figurent aussi par ses priorités. En somme, c'est une génération qui refuse d'être laissée pour compte. Nous réclamons un futur meilleur. Mais lorsque nous manifestons, nous risquons nos vies. À Madagascar, la liberté d'expression est sévèrement restreinte et dès les premiers jours de mobilisation, la répression a été brutale. Malgré tout, la génération Z ne lâche rien. L'humanité doit triompher parce que ce sont les gens qui construisent les nations, pas les régimes ni les élites corrompues. Si c'est le cas, alors Madagascar pourra enfin s'élever plus fort et plus juste pour chaque malgache. L'envie profonde de changement ne diminue pas. Elle s'exporte même au-delà des frontières et y trouve sa résonance ailleurs. Je crois profondément que chaque lutte locale a un écho mondial. Quand un peuple retrouve sa voix, le monde entier ressent un soulagement, commente Rova. Un avis partagé par Robert, un jeune de Madagascar, qui continue de se battre lui aussi, pour que les jeunes, où qu'ils soient, puissent croire qu'ils ont un rôle à jouer dans l'histoire de leur pays. Voilà, on va écouter maintenant une deuxième chanson de Zaz, de son dernier album, Camarade.
Les joies, les peines et les succès, ça va, ça vient. La vie fait des bleus, je le sais, chez les mêmes, chez moi. Tourne, tourne les sentiments, les bons, les mauvais. En allant, le plus important, c'est de savoir dire je t'aimais. Tiens bon mon camarade, dans la vie y a de l'amour. Peu importe les larmes, si les bras sont autour. Dressons des barricades contre les mauvais jours. Tiens bon mon camarade, dans la vie y a de l'amour. Le temps a filé sans rien dire, sans faire des siennes. Mais je veux plus t'entendre dire que la vie est chienne. On a eu nos 20 ans ensemble, tu t'en souviens. On savait pas comment s'y prendre, voir. On en a fait du chemin. Tiens bon mon camarade, dans la vie y a de l'amour. Peu importe les larmes, si les bras sont autour. Dressons des bas. Les yeux dans les yeux. À quoi ça sert de s'aimer si c'est pas pour s'aimer vieux? Tourne, tourne les sentiments, les bons, les mauvais. En allant, le plus important, c'est de savoir dire je t'aimais.
Encore une très belle chanson de Zaz. Voilà, on va parler donc de la situation maintenant au Moyen-Orient. Depuis les attaques illégales d'Israël et des États-Unis le 28 février 2026 contre l'Iran, la région du Moyen-Orient s'est à nouveau embrasée. Plus de 5000 morts, des dizaines de milliers de blessés, des millions de personnes déplacées. Ce sont des millions de vies qui sont menacées dans 12 pays de la région. Au-delà des pertes humaines, la guerre au Moyen-Orient a entraîné la destruction d'infrastructures dont les sites pétroliers, gaziers et nucléaires, à l'origine d'une dévastation environnementale et d'un choc économique mondial. Cette situation risque de provoquer une grave crise alimentaire, comme alertent les Nations Unies. Le 7 avril et le 17 avril 2026, deux cessez-le-feu ont été mis en place entre les États-Unis et l'Iran, ainsi qu'entre Israël et le Liban. Mais ces cessez-le-feu, fragiles et temporaires, ne sont pas respectés par les parties au conflit qui l'ont bafoué à de nombreuses reprises. La seule solution crédible pour mettre fin aux souffrances des populations civiles est l'adoption d'un cessez-le-feu durable qui soit étendu à l'ensemble de la région. Les dirigeants du monde entier doivent sortir de l'inaction pour exiger le respect du droit international et ouvrir la voie à la justice. La communauté internationale doit maintenant fixer une ligne rouge. Il faut mettre en place un véritable cessez-le-feu s'inscrivant dans la durée, ce qui nécessite un arrêt total des hostilités armées de tous les côtés, dans tous les pays concernés. En Iran, la population est prise au piège entre le conflit armé et la répression sanglante menée par les autorités iraniennes. Les attaques illégales israélo-états-uniennes contre l'Iran ont violé la Charte des Nations Unies qui interdit le recours à la force. Les deux pays ont opéré des dizaines de milliers de frappes aériennes contre l'Iran. Le bilan de la guerre en Iran est dramatique. Ces frappes ont entraîné des dommages considérables contre les infrastructures énergétiques iraniennes, les ponts, universités, écoles, bâtiments résidentiels et les centres de santé. À la veille du cessez-le-feu avec l'Iran, Donald Trump menaçait de commettre des crimes de guerre, voire un génocide. En effet, il a dit « Une civilisation entière va disparaître ce soir pour ne plus jamais renaître ». Face à ces attaques, l'Iran a répliqué en menant des attaques indiscriminées en Israël et dans les pays du Golfe, sans distinction entre les objectifs militaires et les populations civiles, pourtant protégées par le droit international. Les forces armées iraniennes ont également recruté des enfants soldats, dès l'âge de 12 ans, pour une campagne militaire. Nous avons dénoncé ces actes relevant de crimes de guerre. Le conflit armé en Iran survient après les massacres particulièrement violents envers la population iranienne en janvier 2026, où les manifestations ont été écrasées dans le sang. Depuis la guerre, les autorités intensifient la répression envers les Iraniens et les Iraniennes. Le régime est acculé depuis qu'il est privé de son guide suprême, qui a mené un règne despotique pendant près de 37 ans. Le moindre opposant interne à la République islamique d'Iran est considéré comme un ennemi aux yeux des autorités iraniennes, qui redoublent les menaces. Au moins 21 personnes ont été exécutées par le régime, depuis le début des hostilités. 9 manifestants, 9 dissidents et 3 personnes accusées de rébellion armée contre l'État ou d'espionnage pour le compte des États-Unis ou d'Israël. Les autorités ont également toujours recours aux détentions arbitraires, aux disparitions forcées et à la torture. Avec les coupures massives d'Internet en Iran et les restrictions envers les organisations de défense des droits humains, il est difficile d'estimer les chiffres de la répression en Iran. On va maintenant écouter une chanson de HK, Je suis.
croyez-moi, je n'ai pas l'indignation sélective. Quand mon cœur est touché, il ne demande pas le nom ou la couleur de la peau des victimes. Avait-elle bonne presse ou ne l'avait-elle pas? Pour la cause d'un dessin ou pour celle d'une plume? Un délit de sale gueule, une tronche qui ne passe pas. Chacune d'entre elles mérite le même hommage posthume. Le cri de celles et ceux qui n'acceptent pas. Moi, je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Yed Ebouna, je suis Rémi, je suis Adama, je suis Ali Ziri, je suis Yed Ebouna. Quand des hommes vous frappent, vous laissent sur le bitume, comment se pourrait-il qu'il ne soit pas jugé? Peu importe les titres, les uniformes, les costumes, personne ne peut agir en toute impunité. Au nom d'une religion ou sous couvert de la nation, un acte criminel reste un acte criminel. Ni justification, ni mystification. Pour les familles des victimes, la douleur est la même. Oh, je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Yed Ebouna, je suis Amin, je suis Adama, je suis Malikou Sekine, je suis Yed Ebouna. Mémoire, comme autant de raisons pour ne pas oublier que leur nom soit gravé dans nos livres d'histoire. Et malheur à ceux qui voudraient les effacer. La justice est la mère de nos amours innocents. La vérité n'est pas notre fruit défendu. Oh non, 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 non. Les appels d'une pousse, d'une sœur ou d'un enfant ne peuvent être étouffés, ils doivent être entendus. Oh, je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Yed Ebouna. Je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Yed Ebouna. Je suis, je suis, je suis, je suis.
Voilà, alors on continue le tour de cette guerre au Moyen-Orient. On va parler du Liban. Depuis le 2 mars 2026 et les attaques du Hezbollah contre Israël, le Liban est en proie à une nouvelle vague d'hostilité. Les attaques aériennes israéliennes se sont multipliées dans le pays, souvent au mépris des populations civiles. Les journalistes qui veulent faire la lumière sur ces crimes internationaux sont également visés par Israël. La dernière journaliste en date, Amal Khalil, a été tuée le 22 avril 2026 par une frappe israélienne. Israël émet des ordres d'évacuation massifs envers les populations libanaises dans le sud du Liban et dans les banlieues sud de Beyrouth. Plus d'un million de personnes ont été déplacées dans le pays. Des villages fantômes se déploient à la frontière avec Israël. La population n'est pas autorisée à revenir dans les ruines de leurs maisons, sous peine de se faire tirer dessus. Le 8 avril 2026 restera un mercredi noir dans la mémoire collective libanaise. Plus de 100 frappes en l'espace de 10 minutes ont tué plus de 350 personnes au Liban, sans aucune alerte préalable des autorités israéliennes. L'impunité totale dont jouit Israël depuis ses attaques illégales envers le Liban en 2024 a nourri cette nouvelle escalade de violence en 2026. En Israël, la population civile est également victime des tirs de missiles iraniens et des tirs de roquettes du Hezbollah. Au moins 34 personnes ont été tuées, dont 21 civils et 13 soldats. Le conflit n'épargne pas les territoires palestiniens occupés par Israël. 4 femmes palestiniennes ont été tuées en Cisjordanie occupée par des tirs de missiles iraniens. Cette dernière escalade dans la région fait suite à plus de 2 ans et demi de conflits incessants au Moyen-Orient, depuis les attaques du Hamas contre les civils dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, jusqu'au génocide israélien contre la population palestinienne de la bande de Gaza occupée, en passant par les attaques israéliennes de 2024 contre le Liban. L'urgence d'un cessez-le-feu durable et régional. Nous demandons une action de toute la communauté internationale. Nous appelons les dirigeants du monde entier à œuvrer d'urgence à la mise en place d'un cessez-le-feu durable, respecté par toutes les parties au conflit. Ce cessez-le-feu doit être accompagné de mesures pour défendre les droits humains à long terme dans la région. On va écouter une chanson ancienne de Julius Bocarn, mais qui, hélas, est toujours tristement d'actualité. « Les loups ont des têtes de mouton » de Julius Bocarn.
Depuis que Lumumba fut tué pour avoir dit sa vérité, depuis que là-haut et là-haut, parce qu'il avait parlé tout haut, depuis qu'on étouffa une fille dans un avion pour pas qu'elle crie, les loups ont des têtes de mouton, derrière les roses y a des chardons. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot trop on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands ça c'est bien pire. Celui qui se tient au perché, il a le droit de vous supprimer. De beaux enfants sautent sur des mines, mais on n'arrête pas la machine. D'autres sont drogués pour tuer, et la cocaïne les défait. Nous vivons en pleine barbarie, les soldats violent toujours les filles. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Chez nous, un jeune homme fut visé, tiré comme un lièvre en un pré. Pour le diamant qui s'est gagné a été totalement détruit. Y a des fabriques et des boutiques de fusillades pas d'ici. La mort fait vivre nos ouvriers, l'emploi est sauf, on laisse couler. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Des femmes sont tuées à chaque jour par jalousie, par leurs amours. Il y a des petites filles qui sont forcées et toute leur vie en est gâchée. Il y en a d'autres à qui on enlève le clitoris, leur vie s'achève. À 3 ans on tourne la page, leur vivant c'est déjà veuvage. Tout le monde veut être tout en haut pour tenir le manche de la faux. Une fois qu'il tient, il veut faucher et le cauchemar de recommencer. Les petits regardants devenus grands veulent jouer au grand jeu des grands. Y en a pas un qui est épargné, tout le monde veut être le premier. Nous sommes 6 milliards tout en bas, maraboutés au nom de quoi? Au nom du pèse, au nom du fisc et du sacro-saint bénéfice. Mineurs et majeurs détournés par des bonimenteurs roués qui veulent que nous marchions au pas et dans les souliers de leur choix. C'est celui qui est tout en bas qui est bien plus fort qu'il ne croit. Si nous le voulons, toi et moi, le cauchemar s'arrêtera. 6 milliards de petits regardants peuvent devenir acteurs puissants. 6 milliards de gens conscients ensemble changent le cours du temps.
Voilà, cette chanson, hélas, est toujours d'actualité. Nous allons maintenant parler de la France et de la galère des titres de séjour, une précarité entretenue. Nous allons d'abord écouter un reportage d'Amnesty International et puis ensuite je vous dirai quelques petites avancées depuis le début de cette campagne qui s'appelle « À la merci d'un papier ». On écoute « Galère des titres de séjour ». Une précarité entretenue.
Fois, on vit au jour le jour parce qu'on se trouve dans une situation où l'employeur, du fait qu'on n'ait pas un titre valable et durable, il ne peut pas nous prolonger le contrat, nous proposer quelque chose de sérieux.
Je travaille, j'ai mes diplômes, j'ai tout ce qu'il faut. Attends jusqu'à quand.
Ce n'est pas des sans-papiers, non. Non, ce n'est pas des sans-papiers. Ce sont des gens qui ont perdu leur titre de séjour.
Tu sais, inhumain, inhumain, indigne. Indigne d'un pays comme le nôtre, qui est riche.
Il y a une maltraitance institutionnalisée. De toute façon, à un moment, quand c'est à ce niveau-là, c'est institutionnalisé.
Il y a des gens qui vendent ça jusqu'à 1000 euros, le créneau de rendez-vous.
Et si votre vie entière dépendait d'un bout de papier? C'est la question que l'on s'est posée à Amnesty International France. Avec notre équipe, on a enquêté, et pendant 1 an et demi, on a recueilli la parole d'hommes et de femmes étrangères qui vivent, qui travaillent en France en situation régulière depuis des années. Des personnes racisées, souvent des femmes. Et notre constat, c'est que ces personnes sont exploitées et elles peuvent tout perdre du jour au lendemain. Leur travail, leurs droits, leur sécurité, à cause de leur titre de séjour précaire, parce que de courte durée. Et ce que notre enquête révèle, c'est que cette précarité est organisée, fabriquée, entretenue par l'État français.
Devant les préfectures de France, chaque matin, ils sont des centaines à espérer obtenir une réponse sur l'avancée de leur dossier. Depuis plusieurs années, les personnes étrangères qui souhaitent renouveler un titre de séjour sont de plus en plus confrontées à d'importants retards de procédure. Sans réponse pendant de longs mois, parfois des années, les conséquences de ces défaillances sont concrètes.
C'est n'importe quoi ça. Tous les jours on est là. J'ai une attestation jusqu'au 22, mais le travail m'appelle pour le contrat. J'ai une fille à nourrir, j'ai un travail, j'ai mes diplômes, j'ai tout ce qu'il faut. Attends jusqu'à quand? On va attendre jusqu'à quand?
Cette femme ne souhaite pas apparaître. Elle est infirmière dans un hôpital public depuis 15 ans. Aujourd'hui, menacée de licenciement.
Mon patron, il a interrompu mon contrat. Pourtant, je suis bien en CDI, je travaille, je fais tout mon possible, je paye mes impôts. Et là, j'ai plus de salaire, j'ai pas de droit. Quand t'as plus de titre de séjour, je peux pas bénéficier du chômage, de quoi que ce soit. Je peux pas me soigner, je peux rien faire. Quand tu viens à la sous-préfecture et les agents sont pas, on te laisse pas rentrer, ils sont pas polis. On nous prend comme de la merde. Je viens pas quémander, je veux pas faire l'aumône. Je veux qu'on me donne ce qui me revient de droit. Une attestation, c'est un petit document. Donnez-moi ça. Je vais reprendre mon boulot. C'est tout ce que je demande. Au fait, ils tiennent notre vie entre les mains. Vraiment, c'est dur.
Chaque vendredi, un collectif d'habitants et d'associations de Saint-Denis tente d'orienter les personnes étrangères.
Pour eux, obtenir un rendez-vous ici, c'est l'enjeu de leur vie, en fait. Il faut se rendre compte que très vite, les gens ont peur de se retrouver à la rue. C'est abominable comme situation. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes avec des petits-enfants attendre ici, ne pas repartir avec l'enfant dans la poussette. On se demande que va manger l'enfant. Enfin, c'est, il y a de la maltraitance là pour tout le monde. Vraiment, c'est inadmissible. C'est inhumain, inhumain, indigne. Indigne d'un pays comme le nôtre, qui est riche. J'ai envie de pleurer.
Depuis la crise sanitaire, l'État a mis en place des procédures dématérialisées par Internet, censées simplifier les démarches. Mais obtenir un rendez-vous en préfecture est devenu plus difficile encore. Les créneaux disponibles partent en quelques minutes. Il est aussi devenu très compliqué de joindre un agent par téléphone. Au sein des préfectures, des employés dénoncent des conditions de travail difficiles, des sous-effectifs. Au téléphone, un chargé d'accueil témoigne sous couvert d'anonymat.
Depuis l'annonce, on ne peut plus, il n'y a plus personne qui répond. Les agents sont sur messagerie constamment. On est obligé de faire un aveu d'impuissance. La consigne qu'on nous donne, c'est d'y faire envoyer des mails. En sachant très bien qu'ils ne répondent pas aux mails. L'immense majorité qui a envie de bien faire leur boulot n'ont pas les moyens de le faire. Avec des logiciels qui sont inadaptés, avec des manques, un manque de moyens humains qui est criant. C'est là où ils sont une quinzaine, il faut être 20 à 25 tellement il y a de demandes. Le ministère promet des postes qu'il ne nous donne jamais. Nous, ça nous arrive régulièrement, des personnes qui nous appellent en disant « mais je vais perdre mon travail ». Puis un jour, ils nous appellent en disant « ben voilà, maintenant mon travail, je l'ai perdu ». Qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a une maltraitance institutionnalisée. De toute façon, à un moment, quand c'est à ce niveau-là, c'est institutionnalisé. C'est mettre des gens en difficulté alors qu'il n'y a aucune raison.
L'agent d'accueil se dit profondément affecté. Son médecin l'a arrêté pendant un mois.
Je me suis effondré chez le médecin en lui disant ben voilà ce qui se passe. Les files d'attente dans la rue, les gens qui me hurlent dessus, moi j'essaye de les aider et je ne peux rien faire. C'est, je n'y arrivais plus. J'avais honte du boulot que je faisais en me disant mais je participe à cette maltraitance. Et je pense qu'à un moment, ça va exploser.
Depuis les années 2000, les lois sur le droit de séjour se sont multipliées. Loi Sarkozy, loi Valls, loi Darmanin, circulaire Retailleau, à chaque ministre de l'Intérieur, un nouveau texte, complexifiant et durcissant les conditions pour accéder à un titre de séjour. Curtis est arrivé en France de RDC à l'âge de 1 an. Mais depuis 2024, il attend toujours le dernier renouvellement de sa carte de séjour.
C'est réellement aujourd'hui un labyrinthe administratif. On n'arrive pas à savoir qui est-ce qu'il faut joindre. Quand on en joint, on renvoie vers un autre service, puis ensuite un autre. Moi, l'impression que j'ai, c'est que tout le monde se relance un peu la patate chaude. Avec les délais d'attente et le nombre de personnes qui y est, c'est tellement conséquent. Donc on passe nos vies à la préfecture, on passe nos vies dans l'administration. Et donc là, aujourd'hui, je me retrouve à avoir renouvelé 4 fois un titre d'identité provisoire valable de 6 mois. Donc c'est chaque 6 mois des retours à la préfecture quand on arrive, bien sûr, à avoir un rendez-vous. Les conséquences sur la vie professionnelle, elles sont un peu désastreuses parce que là, je sors d'études en 2023. Et donc, dans un cas, pour tous ceux qui sont dans un cas comme le mien, on sort d'études et là, on ne réussit pas à avoir nos premiers contrats, nos premiers CDI, nos premiers postes en fait réellement stables parce que partout où on se retrouve et on se présente, professionnellement, on se présente comme quelqu'un qui n'est pas en situation régularisée en termes de ses papiers, qui est en situation administrative très délicate. Aujourd'hui, à cause de cette précarité administrative, ben, je me retrouve à avoir raté 4 emplois. Et quand je n'ai pas de boulot, voilà, à chercher à travailler à côté, à rendre des services. Donc à se débrouiller complètement. Donc ça empêche clairement un jeune comme moi de 26 ans sorti d'études et de réfléchir à sa vie et de réfléchir à demain en fait. C'est un compte à rebours. C'est à chaque fois jusqu'à ce que le titre soit valable. C'est un compte à rebours qui n'est pas possible à vivre.
Une course contre la montre qui impacte durement celles et ceux qui occupent des emplois peu qualifiés, pourtant essentiels. BTP, propreté, restauration, où les travailleurs étrangers sont surreprésentés. Christophe, lui, était éboueur en CDI. En 2024, il dépose sa demande de renouvellement bien avant son expiration. Puis, plus rien. Quand il reçoit enfin une convocation, il est trop tard. Son employeur vient de le licencier.
J'ai été licencié le 15, le 20 mai. J'ai reçu la convocation de la préfecture pour aller renouveler le titre de séjour. Elle m'a dit que non, c'est trop tard. J'ai un peu de sentiments dans mon cœur parce que j'ai travaillé, j'ai quand même une ancienneté. Le loyer, je paye presque 650 avec des charges. Mais aujourd'hui-là, j'ai déjà retard de 2 mois. Je ne sais pas si je n'avais pas l'argent, je voulais être dans la rue. Il y a des gens comme moi qui ont perdu le travail, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu tout. Donc, je dis que tout. Et ils ont se retrouvé dehors. Ce n'est pas des sans-papiers, non. Non, ce n'est pas des sans-papiers. Ce sont des gens qui ont perdu leur titre de séjour.
Un peu partout en France, pour contraindre les préfectures à respecter des délais de traitement raisonnables, des travailleurs étrangers saisissent les tribunaux administratifs. À Montreuil, l'avocate Aurélia Coquillon défend des dizaines de dossiers de personnes victimes de dysfonctionnements structurels.
On a un certain nombre de nos clients qui ont toujours vécu en France, qui pour la plupart sont dans des procédures d'ailleurs de naturalisation, qui effectivement ont des CDI, qui ont fait, comme je l'indiquais, des études, qui sont finalement dans un parcours complètement classique et qui n'ont eu aucune difficulté jusqu'à présent pour renouveler en fait leur titre de séjour et qui en fait du jour au lendemain, et ce depuis le Covid, se retrouvent sans papier. Aujourd'hui, les préfectures mettent parfois plus d'un an, un an et demi en fait à statuer sur votre demande. Donc en réalité, peu importe que vous déposiez votre demande 2-4 mois avant l'expiration de vos titres, vous n'aurez jamais de réponse, à de rares exceptions près, de la part de la préfecture au jour de l'expiration de votre titre. Donc vous allez certainement vous trouver en situation irrégulière, alors même que vous aurez déposé votre demande de renouvellement dans les temps.
Des tribunaux administratifs dans toute la France donnent régulièrement raison aux personnes étrangères face au retard des préfectures. Kamal, né au Bangladesh, est arrivé en France à l'âge de 3 ans.
J'ai fait des mails, je suis allé sur place. J'ai voulu suivre la procédure légale qui ne marche pas. Je commence à me demander ce que je peux faire de plus pour pouvoir avoir un truc qui soit régularisé. Mes collègues de bureau me disent, écoute, si jamais tu n'as vraiment pas le choix, il y a des gens qui vendent des billets en ligne, donc achète un créneau et tu vas à leur place. Il y a des gens qui vendent ça jusqu'à 1000 euros, le créneau de rendez-vous. C'est vrai que si c'était 50 euros, peut-être que je l'aurais fait. Pour être franc avec vous là-dessus, entre 50 euros et perdre 6 mois de boulot, je pense que le choix est vite fait. J'ai pris le temps de réfléchir là-dessus, puis je dis, écoute, non, je ne vais pas payer pour acheter un rendez-vous en ligne, quoi, finalement. J'ai toujours tout bien fait. La France, c'est un pays que j'adore. C'est mon pays. Enfin, même si je ne suis pas né ici, j'ai grandi en France. Je travaille depuis 9 ans, donc je contribue également aux impôts. C'est normal pour moi de faire ça. Et donc, je me dis, je fais tout ce que je dois faire pour être un bon Français. Et à côté, je subis, en fait, une punition parce que je ne suis pas Français. Et donc, les premiers mois, j'étais bloqué chez moi. Je ne pouvais absolument rien faire. Et si je sortais dehors et que j'étais contrôlé par des policiers ou autres, je pouvais être au QTF. Il y a une forme de honte, clairement, parce que le fait de vivre plusieurs mois sans rémunération, plusieurs mois sans avoir un statut social, finalement, on se sent différent, on se sent rabaissé. Et ça, c'est dur à vivre. C'était une vraie dépression. J'ai vécu ça comme une douleur parce que on n'est pas prêt à ça, finalement. Si vous voulez, quand on vit quasiment 30 ans en France, normalement, c'est pas un sujet.
Ces histoires ne relèvent pas de l'exception. Elles constituent le quotidien de milliers de travailleuses et travailleurs étrangers en France.
Face à ces violations des droits subies par les personnes étrangères, à Amnesty International, notre proposition est simple. Quitte à voter une loi tous les 2 ans, et si on en adoptait une qui soit enfin protectrice, réaliste et pratique pour tous, aussi bien les personnes concernées que les employeurs, que les agents de préfecture. Et ça commence avec plus de stabilité, avec des titres de séjour qui soient plus longs, avec un titre de séjour unique pour le travail, d'une durée de 4 ans au moins, et qui permettent l'accès à tous les droits fondamentaux pour les personnes. Parce que la vie de ces personnes étrangères ne devrait pas dépendre d'un bout de papier.
Voilà, alors depuis, on a noté, depuis le début de notre campagne, on a noté quelques petites avancées. En décembre 2025, a été adoptée à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée, portée par les députés socialistes. Maintenant, cette loi est en attente d'examen au Sénat. Et elle n'est pas encore programmée, donc on est un peu inquiet sur ça. Bon, il y a eu 2 circulaires du ministre Laurent Nunez. La première porte principalement sur les délais de traitement des titres de séjour dans les préfectures. Donc, il annonce le recrutement de 500 personnes en préfecture pour traiter toutes ces demandes en retard. Bon, c'est sûr que si notre proposition passait, on n'aurait pas besoin de tous ces agents, puisqu'on demande des titres de séjour d'au moins 4 ans. Voilà, et puis la deuxième circulaire met l'accent sur l'intégration des personnes étrangères en France par le français, mais également par le travail, ce qui peut servir les intérêts de nos travailleurs. Voilà, il y a une autre proposition de loi au Sénat, de nouveau portée par les socialistes, qui reprend 4 des recommandations de notre rapport visant à lever les obstacles à l'intégration par le travail. Voilà, il y a des petites avancées. On espère que notre action qu'on va continuer débouchera. Voilà, on va maintenant parler de Digne et les Bains. J'ai été invité en tant que président du groupe dinois d'Amnesty au concours d'éloquence des lycées Alexandre Lavinel et Pierre-Gilles de Gênes le jeudi 30 avril au Palais des Congrès. Le thème de cette année, c'était « Ce soir, j'ai le courage de vous dire ». Trois petits points. À première vue, ce n'est pas vraiment un thème et pourtant les jeunes ont apprécié et se sont exprimés sur des sujets très variés et souvent très personnels. On peut dire en fait que ce thème, « Ce soir, j'ai le courage de vous dire », était en fait la liberté d'expression en action. Et donc, ces jeunes ont témoigné chacun de ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. Donc, il a été question d'un grand-père qui avait la maladie d'Alzheimer, d'un jeune qui avait attrapé un cancer à l'âge de 17 ans, d'une autre qui était trop sensible, mais est-ce que c'est vraiment un défaut ? Il a été question de petits princes, de fractures numériques, de préjugés, de rêves à accomplir, de la parole donnée aux élèves qu'on n'entend pas souvent. Tous ces jeunes ont ému et sensibilisé les 400 personnes présentes au Palais des Congrès. Certains sujets étaient en lien avec les préoccupations d'Amnesty, comme l'invisibilité de certaines personnes, des SDF, des anciens détenus, ou les droits des femmes. Mais en fait, si on réfléchit bien, tous les sujets avaient quand même un lien avec les droits humains et la dignité que chacun doit avoir. Voilà, alors je vous propose d'écouter le discours sur les droits des femmes d'une des jeunes candidates.
Julie Brunet. Ce soir, j'ai le courage de vous dire que je suis une femme et que l'on va m'oublier, me supprimer, m'effacer. Je m'appelle Julie, j'ai 8 ans et pour la première fois, j'ouvre un livre d'histoire. J'ai hâte d'apprendre et de découvrir le monde. Je tourne les pages, j'y vois un homme préhistorique, un prêtre, un roi, un chevalier et en arrière-plan de ces images, je vois des femmes apeurées, cachées, isolées. Voilà l'histoire telle que vous et moi l'avons apprise. Sans femmes. Pourtant, elles ne se sont jamais tues. On ne les a juste pas écoutées, pas nommées. On les a volontairement gommées. Alors ce soir, j'ai aussi le courage de vous dire que l'oubli n'est pas un accident, mais un choix. On se souvient de Napoléon, mais qui connaît Isabelle de Conches? Une guerrière qui participait activement à des conflits, mais qui restait cachée derrière un masque. On honore Molière dans les cours de français, mais on oublie de citer Catherine Bernard, la première femme dramaturge, qui a écrit deux tragédies pour la Comédie française. On célèbre tous Newton, mais qui parle d'Eddie Lamar, l'inventrice du Wi-Fi. On célèbre tous le boxeur Marcel Cerdan, mais que connaît-on d'Iman Khelif? Une boxeuse médaillée d'or aux Jeux de Paris en 2024, dont les médias n'ont relayé les exploits que pour l'accuser d'être un homme. Selon l'expression, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. En réalité, à côté de chaque homme, il y a de grandes femmes. Elles ont juste été effacées pour que l'histoire reste écrite au masculin. Et pourtant, il y a toutes ces femmes qui en ont changé le cours. Elles ont pensé le monde alors qu'on leur interdisait même de s'exprimer. Mais attention, ne croyez pas qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les femmes oubliées ne sont pas seulement les figures du passé. Ce sont ces femmes du présent, celles que l'on ne cite pas, qui se battent sans médaille, sans micro, sans podium. Ce sont ces héroïnes du quotidien. Maman, professeur, infirmière, femme de ménage. Ce sont elles qui se lèvent avant l'aube, qui soignent, qui enseignent, qui encaissent l'irrespect, les jugements, les clichés, les inégalités. Ce sont ces femmes qui reçoivent des fleurs pour la Saint-Valentin et la fête des mères, mais qui doivent tout gérer et surtout avoir un corps parfait. Ce sont ces femmes qui travaillent dur, mais qui n'auront jamais cette promotion Pire, on leur coupera la parole en réunion. Elles sont cachées derrière des « ça a toujours été comme ça » ou « c'est la tradition ». Comme en grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Ici, on lutte contre le patriarcat. Et là-bas, dans ces pays où la lumière ne s'allume même pas, on efface et supprime tous leurs droits. Combien de temps allons-nous rester silencieux? Combien de temps allons-nous fermer les yeux? Sierra Leone, elles subissent des viols collectifs, des mutilations génitales et des violences obstétriques. Soudan, Congo, Palestine, elles enfantent sous les bombes, elles nourrissent leurs enfants sur les décombres. Afghanistan, on parle même d'apartheid de genre. Malawi, les jeunes filles sont violées après leurs premières règles comme rituel de purification. Elles sont enterrées sans tombe, sans enquête, sans histoire. Elles sont mortes deux fois. Une fois dans la violence et une fois dans l'oubli. L'horreur est partout, mesdames, messieurs. Même parfois à côté de chez vous. Charlène, 35 ans, a fui Alex, son conjoint qui l'a frappé. Tout le monde le savait, tout le monde l'entendait hurler. Mais personne n'a rien fait. Elle a vu pourtant porter plainte trois fois. Adèle, 12 ans, détestait les repas de famille car tonton Georges était toujours là, assis, à la même place, avec son sourire qui l'a terrifiée et ses mains baladeuses. Tout le monde le savait, tout le monde l'entendait, tout le monde le comprenait, mais personne ne l'a aidée. Tous lui ont demandé de ne pas parler. Alors, mesdames, messieurs, qu'allez-vous décider à partir de ce soir? D'oublier, de supprimer, d'effacer ou de choisir la vérité? Ce soir, j'ai le courage de vous dire que le féminisme n'est pas une mode, n'est pas une folie. Le féminisme, c'est refuser l'effacement, le silence, c'est refuser l'oubli. Et tant que des femmes seront oubliées, le combat ne sera pas terminé. Alors, mesdames, on ne demande plus la permission, on ne demande plus la place, on la prend, on la nomme, on l'écrit. Parce que l'histoire ne sera complète que le jour où plus aucune femme ne sera effacée. Merci.
Voilà un de ces discours impressionnants de ces 16 jeunes, 8 d'Alexandra Davinel et 8 du Pierre-Gilles de Gênes, qui nous ont tous émus, bouleversés. On va maintenant parler de l'action du groupe d'Himnois. Alors nous allons mercredi 6 mai, là, ce mercredi. On vous donne rendez-vous à 19h à Salle de l'Ermitage pour une soirée de contes organisé par Solidarité Interculturelle 04, Réseau Éducation Sans Frontières, avec le soutien d'Amnesty International et de l'association de soutien aux jeunes isolés étrangers. Voilà, nous accueillons Pepito Matteo pour cette leçon de français. Dans cette leçon de français, Pepito Matteo nous convie à partager son goût pour le langage, l'ambiguïté des mots et les malentendus. Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence en forme de leçon de choses est aussi un témoignage sensible sur l'humanité et ses différences, sur les cultures et les a priori. À travers cette traque du français, qui nous promène d'une piste de ski à un lieu de rétention administrative, le facétieux conteur n'a de cesse de repeindre le monde qui nous entoure de sa douce folie langagière et de sa poésie singulière. Voilà, donc venez, c'est un spectacle gratuit, il y aura un chapeau qui circulera à la fin du spectacle. Le conteur Pepito dédicacera ses livres et puis bien sûr il y aura le stand d'ROSF et le stand d'Amnesty International avec une exposition sur justement notre campagne sur les titres de séjour à la merci d'un papier, une précarité entretenue, voilà. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, je vous rappelle. Mercredi 6 mai à 19h, salle de l'Ermitage à Digne-les-Bains, pour cette leçon de français de Pepito Matteo. Voilà, venez nombreux. On va terminer cette émission avec la chanson de Zaz, Vivre autrement.
pour recevoir et pour donner, pour fléchir et me relever, pour murmurer d'autres langages, effleurer d'autres paysages, pour apprendre la solitude et déjouer les certitudes, pour prononcer le mot famille en sachant ce que j'ai construit. Moi qui ai tenté tous les diables, pris des navires incontrôlables, moi qui ai dansé sur les braises, tout au bord de mille falaises, moi qui ai imploré les astres de me laisser dans mes désastres, moi qui ai tiré sur la corde, espérant que la vie me morde. Je ne sais pas ce qui me prend, je ne sais pas ce qui me prend, mais j'aimerais vivre longtemps. Je ne sais pas ce qui me prend, pourquoi ici et maintenant, mais j'aimerais vivre longtemps. Pour voir les peuples se libérer et la force des opprimés, la chute des oppresseurs et donner raison à mon cœur. Faire 100 fois le tour du monde et qu'un jour quelqu'un me réponde sur le pourquoi du comment, sur ma joie et sur mes tourments. Les amis et les amoureux, je ne sais pas ce qui me prend, je ne sais pas ce qui me prend, mais j'aimerais vivre longtemps. Je ne sais pas ce qui me prend, pourquoi ici et maintenant, mais j'aimerais vivre longtemps. Pour me remettre de mon enfance et tenir la honte à distance, pour qu'enfin mon corps se délaisse, prendre le temps de chaque geste, pour entrevoir une sagesse, connaître mes forces et mes faiblesses, trouver profondément un sens. Je ne sais pas ce qui me prend, mais j'aimerais vivre longtemps.
Voilà, j'ai oublié de vous dire moi aussi que j'ai une amie là qui va exposer les œuvres de son mari. Son mari s'appelait Alexis Nouella. C'était un aquarelliste avec un talent immense qui a peint la montagne et les animaux. La nature. Alors, si vous aimez la montagne, si vous aimez les animaux, n'hésitez pas à venir voir cette exposition qui sera visible tout le mois de mai dans la salle d'expo de la médiathèque de Digne-les-Bains. Alors, venez nombreux, vous verrez, c'est un plaisir pour les yeux. Voilà, et puis en plus, sa femme est une belle personne qui a aussi accueilli des migrants. Et voilà, et donc on a bien sympathisé et... Et voilà, alors je tenais à faire sa publicité. Là. Venez voir les œuvres d'Alexis Nouella sur la montagne. Il y aura des aquarelles de la région aussi, parce qu'il est venu dans notre région. Et vraiment, ça vaut le coup d'aller admirer ces aquarelles.